Bah, bienvenue dans cet épisode spécial de La Bonne Aventure, en partenariat avec la revue Zadig. Et avant de commencer déjà, merci à Alix Gessen de Zadig pour la rédaction du script de ce podcast. Merci beaucoup. Merci Alix. Alors La Bonne Aventure, c'est l'émission de podcast réalisée par la Slow Gallery qui interroge les artistes sur leurs projets, leurs créations, leurs techniques, leur travail, leur vie. Et Zadig, c'est le trimestriel qui raconte la France, 196 pages de textes, de photos, d'enquêtes, de reportages, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'illustrations pour donner la température de notre pays. Zadig fait la part belle aux illustratrices et aux illustrateurs, pour que eux aussi nous racontent la France. Après 14 numéros, ils en ont vu une flopée et c'est l'occasion de s'interroger sur ce métier particulier, creuser cette dimension, comment illustre-t-on la France ? Nous passerons donc cet épisode aux côtés de Aline Zalco, de Béga Rebaï et de Jean Mallard, tous trois contributrices et contributeurs de Zadig. Ils vont nous raconter comment la France les inspire dans leur vie et leur travail de tous les jours, comment ils dessinent ou ont envie de dessiner la France, ce qui dans ce pays les fait vibrer et titiller leur créativité. On leur demandera aussi comment se réalise un dessin de presse. Qu'est-ce qui rend un dessin de presse différent d'une création personnelle, dans sa fabrication, dans le fond comme dans la forme ? Donc, petit tour de table pour commencer, des différents artistes présents. Alors Aline Zalco, on commence par toi. Tu es dessinatrice, née à Paris. Tu as commencé à travailler comme illustratrice pour le New York Times. Tes dessins ont été publiés dans la presse. Zadig, bien sûr, mais aussi Le Figaro, Télérama, Feuilleton, le Fooding, dans l'édition aussi Flammarion, Fayard et en publicité pour Havas. Tes dessins plus intimes sont exposés à diverses occasions, en galerie.
Ouais.
Et notamment, tu as une prochaine exposition qui démarre le 12 mai à la Galerie des Arts Dessinés en binôme avec Serge Bloch. Le nom de ton exposition s'appelle Fire. Colorée et pop, tu aimes dessiner l'imagerie féminine, mais tu précises aussi que tu es très inspirée par les paysages et la nature. On a derrière nous un numéro, c'était la couverture du Zadig numéro 8, qui était « Femme, une révolution française ». Ta technique de prédilection, c'est le crayon de couleur, mais récemment aussi l'aquarelle t'inspire beaucoup. Ton trait au crayon vif et coloré fait partie de cette miniature, mais voilà, effectivement, les aquarelles, maintenant tu découvres et tu vas nous en parler tout à l'heure. Béga Rebaï, tu résides à Paris aussi, tu es née en 1995. Alors, tu as étudié l'illustration à Bruxelles, en Belgique, pendant 3 ans, et tu as terminé ta formation par un passage à l'école de Condé, à Paris. Fascinée par la couleur et notamment par le courant artistique des nabis, tu construis tes dessins avec une gamme de couleurs étroite et soigneusement sélectionnée. On te connaît surtout pour tes dessins au pastel, on pourrait même te nommer la grande prêtresse du pastel, parce que tu as remis le pastel à la mode. Tu es toujours munie d'un carnet de croquis lors de tes voyages, et tu dessines tout ce que tu vois, à ta manière, avec beaucoup de couleurs et un trait singulier. Tu as beaucoup illustré la presse, Zadig évidemment aussi, pour la couverture numéro 5, Ces mers qui changent la France, mais aussi Les Échos, New York Times, Libération, The New Yorker, The Guardian, entre autres. Et tu exposes ici en solo à la galerie, à la Slow Gallery, à partir du 16 juin prochain.
Oui.
Et enfin Jean Mallard, le Benjamin de cette table ronde, tu as 23 ans, 24. Presque 24.
24.
Ah oui, ça y est.
Ah oui.
Tu es né à Paris, donc en fait, on a que trois, on a trois Parisiens là.
Trois
vrais Parisiens, c'est rare. Donc tu es né et tu vis à Paris, récemment diplômé des Arts Déco, où tu as appris la bande dessinée, mais aussi le dessin animé, la sérigraphie et la gravure. Tes techniques de prédilection sont l'aquarelle et la gouache qui t'accompagnent depuis l'enfance, avec lesquelles tu crées des mondes infinis et ouverts à tous. Tu es parti vivre 1 an à Naples en 2019. Cette expérience t'a beaucoup marqué et tu as créé une série d'illustrations qui a donné naissance à ta première exposition via Miracoli ici en avril 2020. Tes dessins ont été sélectionnés à la foire d'illustration de Bologne en 2018 et en 2020 ainsi qu'à Angoulême en 2019. Tu as reçu le prix Grand Award à Bologne en 2018.
Ouais.
Et tu as déjà illustré plusieurs livres édités chez Motus et aussi dans des maisons d'édition italiennes. Et tu as réalisé la dernière couve de Zadig, le numéro 13, La province contre Paris.
Voilà.
Bon, ben merci à tous d'être là et merci au public aussi. Alors on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Dessiner la France, quelle France dessinez-vous ? Qu'est-ce qui dans ce pays stimule votre créativité ? Qu'est-ce que vous aimez de spécifiquement français ? Qu'est-ce que vous aimez dessiner de spécifiquement français ? On va commencer par toi, Aline.
Alors, je dessinais pas trop les paysages au début de mon travail. Enfin, je dessinais. J'ai un peu vécu aux États-Unis, à New York, et j'étais vraiment. Je dessinais que la ville, voilà. Et quand je suis rentrée, j'ai eu toute une période où j'ai fait beaucoup de portraits. Enfin, je dessinais très peu de paysages, et il se trouve que j'ai été amenée à aller assez souvent, régulièrement, dans le Puy-de-Dôme, dans une maison vraiment perdue dans la forêt, pratiquement.
C'est devenu ton refuge, hein.
Oui, j'ai été confinée là-bas pendant un peu. Enfin, c'est devenu vraiment une. Enfin, je me suis mise à dessiner ce que j'avais autour de moi, naturellement, et puis c'est devenu une énorme source d'inspiration, la nature, les arbres, la forêt. Voilà, donc j'ai commencé comme ça à dessiner les paysages
Oui,
et les paysages français.
c'était très intime. Tu disais que tu avais une maison avec des grandes fenêtres qui donnaient directement sur la forêt et que
Oui,
c'est là.
c'est pas ma maison, c'est une maison dans laquelle j'ai la chance de pouvoir aller souvent. Et oui, il y a cette énorme, enfin cette très grande vue sur la forêt. On est vraiment, ouais.
La forêt rentre dans la maison.
Presque, ouais. Mais c'est, enfin voilà, c'est très très inspirant. Et puis c'est quelque chose, enfin que j'ai apprivoisé de dessiner la nature, et que maintenant quand je voyage ailleurs je peux je dessine très naturellement. Enfin, c'est comme si j'avais reconnecté avec le fait de dessiner ce que je voyais vraiment autour de moi, des paysages, enfin des choses qu'on fait peut-être quand on est plus étudiant en art et qu'on est poussé à dessiner notre environnement. Et j'ai renoué avec ça, mais en faisant des choses, c'est vraiment devenu une part hyper importante de mon travail personnel, ouais. Et pour faire le point avec ce que tu disais tout à l'heure aussi, des choses que je peux maintenant insuffler quand on me demande de faire un travail pour la presse ou pour un livre ou enfin voilà, c'est vraiment des vases communicants, le travail personnel et le travail de commande. Et plus le travail de commande est personnel, plus c'est intéressant. Et l'un peut nourrir l'autre, même une commande peut faire surgir des idées qu'on peut utiliser après pour son travail vraiment le plus personnel. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
Et tu disais, tu avais parlé de ce séjour en Martinique, ce workshop, où tu disais c'était une telle révélation, la nature là-bas, tout s'imbrique, tout paraît que ça a même changé ta façon de faire, la nature a influencé ta façon de
Bah
travailler.
si, je pense que ça aussi, peut-être qu'on a tous eu ce truc, même à l'époque New York, mais des années plus tard, la chance de pouvoir aller en Martinique. Mais c'est qu'un voyage te fasse dessiner, voir les choses autrement, peindre autrement, parce que en l'occurrence j'ai peint là-bas. Et je fais aussi des grandes toiles par ailleurs, mais disons que j'essaye vraiment d'étoffer, enfin j'essaye pas, j'ai envie à chaque fois de faire des choses nouvelles. Et là-bas, j'avais envie de voyager avec moins de choses que d'habitude. Bon, j'ai quand même pris énormément de crayons couleur, mais j'ai pris une boîte d'aquarelle comme ça, alors j'en avais jamais fait particulièrement. Même j'avais presque un a priori sur ce truc, parce que c'est mouillé, faut attendre que ça sèche. C'est, alors que le crayon de couleur, il y a quelque chose d'immédiat, c'est très facile, c'est très simple. Par tailler tout le temps, c'est crayon, ça c'est un autre sujet. Et donc c'est vrai, c'est un sujet. Et
C'est
donc
contraignant, c'est contraignant.
c'est extrêmement relou. Et donc avec l'aquarelle, je sais pas, j'ai pris ça, et même mon aquarelle là-bas avait une texture particulière, je pense, avec la chaleur, l'humidité, et ça m'a paru évident de travailler avec ce matériel-là, et plein de choses sont parties, nouvelles choses sont parties de là.
On peut dire qu'il y a une forme de sensualité du paysage
Oui.
et très luxuriant qui s'est insufflée dans ton travail et qui a changé ta façon de voir la
Oui.
nature,
Ouais,
peut-être.
ben ça me fait plaisir. Oui, sûrement. Ouais, carrément.
Oui, on le voit d'ailleurs, il y a les couves que tu as faites, enfin les
Oui, c'est
dessins que tu
vrai,
as faits, ça
la couverture
c'est.
de Zadig et ce que j'ai fait à l'intérieur de Zadig, c'était entre deux voyages en Martinique, parce que je suis allée en Martinique. Ce qui est aussi cool, c'est que j'avais pas prévu d'y aller pour le tourisme, c'est qu'on m'a invitée à réaliser un workshop auprès d'étudiants aux Beaux-Arts. Et donc j'ai été complètement surprise, parce que je voulais pas du tout ouvrir un guide ou je sais pas quoi, et on m'a annoncé ça 10 jours avant de partir, pratiquement, parce que je croyais que ce serait annulé à cause du Covid. Et je m'attendais, enfin j'étais vraiment comment, surprise, enfin je m'attendais à rien, enfin j'avais pas, voilà. Et j'y suis retournée pas très longtemps après pour continuer à travailler dessus, et je pense que je vais l'idée c'est d'en faire un livre, voilà. Mais ça c'est une autre, voilà, c'est la suite,
Oui,
ouais.
c'était la belle surprise martiniquaise.
Oui, et puis c'est un territoire français, du coup.
Bah oui. Et du coup, Béa, est-ce que toi, tu peux aussi nous expliquer, nous raconter ce qui te met la goût, enfin, en plus en appétit en France pour
en
dessiner
France. Oui. Oui. Moi, en fait, j'adore aller dans des petits villages paumés et dessiner ce qu'il y a autour de moi. Donc, je suis plus attirée personnellement par les paysages. Peut-être que ça changera un jour. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Ayant vécu à Paris, je pense qu'il y a ce besoin de nature, de reconnexion à la nature. Et du coup, c'est sûr que je suis très à l'aise dans les petits villages quand il y a plein de nature autour de moi, plus que finalement à Paris où ça maintenant ça m'oppresse beaucoup.
Ah oui.
Oui. Et du coup voilà, j'adore en fait le patrimoine français, toutes les choses spécifiques à la France en fait, toute la singularité dans les régions, enfin les spécialités de région, même la nourriture, enfin j'adore manger.
Le terroir.
Et, voilà. Le terroir, découvrir des nouvelles recettes et tout. Bien boire aussi,
oui,
quand même.
Le bon vin, le bon vin, fromage.
Voilà, finalement.
La douceur de vivre à la française.
Exactement, la mienne. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'aime, en fait, beaucoup, l'histoire de France, le patrimoine français, tout ça, découvrir des endroits.
Les petits patelins paumés, où il y a
ouais.
Plus,
ouais. Mais où il y a quand même une histoire.
Bien sûr.
Où il y a aussi l'artisanat qui est peut-être plus développé, des métiers qui, maintenant, peut-être dans les grandes villes, ont disparu. Je sais pas, moi, ferronnier, des choses comme ça, moi, ça me passionne, quoi. Si j'avais le temps, je.
Et du coup, tu
ferais un CAP ferronnier.
Ouais, on a passé d'une vie, hein.
Mais attention.
Et donc, du coup, tu te promènes avec ton carnet de croquis et tu croques un peu tout cette,
ouais, souvent,
ce patrimoine rural.
Oui, carrément, j'adore.
T'es toujours avec ton carnet, toi,
j'essaie,
tu dessines à la volée.
Ouais, j'adore dessiner sur le vif.
Et Jean, nature ou ville?
Bah moi je suis plutôt ville, hein. plutôt grosse ville même, donc tout l'inverse de Béa, voilà. Alors moi j'ai commencé à dessiner des villes quand je suis allé à Naples, et c'est vraiment cette énergie-là qui m'obsède un peu, donc des vieilles cités méditerranéennes, un peu désuées par le temps, avec toutes les couches du temps qu'on retrouve dans les rues, les vieux palais, les gens qui continuent de vivre dedans, le côté un peu ingouvernable qui me plaît bien. Donc forcément, j'aime beaucoup Marseille parce que c'est un peu la Naples de France. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais fait de dessin, par exemple, sur Paris. Parce que je pense que quand on y vit, c'est un peu le décor de tous les jours. Et on se dit qu'on les fera plus tard. Mais oula, ça marche. Mais j'aimerais bien en faire, je pense que c'est un truc qui va pas tarder à arriver pour moi, parce que j'ai aussi un gros problème avec les représentations de Paris dans la culture. Je trouve que c'est rare de... La plupart du temps, enfin c'est une vision moi que je déteste, et je trouve que c'est important de savoir bien parler des lieux où on vit, de trouver le petit truc qui fait qu'on reconnaît une atmosphère. Et puis ce que j'aime bien moi dans les villes, alors pour vraiment être spécificité française, c'est je dirais le fait qu'il n'y ait pas d'identité propre à la France, et que donc les villes françaises sont quand même... Enfin, moi, quand je rentre à Paris après un voyage, je trouve les gens super beaux, et vraiment tous très différents, donc ça, c'est un truc quand même... C'est un peu la classe.
Merci.
Donc, avec plaisir. Donc, c'est un super travail de représentation.
Et, oui, parce que c'est des lieux, les villes françaises, les grandes villes, en tout cas, de mixité culturelle.
Ah, mais c'est ça.
Sociale.
Et moi j'aime beaucoup, je sais que ça révèle aussi des trucs pas forcément cool, mais par exemple à Paris, j'aime bien prendre un boulevard qui va vraiment traverser toutes les couches, en passant du 16e arrondissement jusqu'à Stalingrad, et juste voir comment la ville se métamorphose en quelques mètres. Et c'est un truc qui me fascine un peu, tous les codes, toutes les tenues, la manière dont les boutiques sont éclairées, enfin tous les petits détails qui font qu'une ville a vraiment un caractère, c'est un truc qui me plaît bien.
Oui, il y a un brassage culturel dans les grandes villes françaises, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays. D'ailleurs, Naples était
Naples,
peut-être
quand même.
Napolito et napolitaine.
Oui, c'est ça. Naples, c'est vraiment une culture hyper fermée. Il y a des Napolitains et c'est tout. Alors qu'à Paris, il y a vraiment tout le monde, quoi. T'as l'impression qu'il y a chaque habitant un peu de tous les pays peuvent se croiser dans une rue ou dans un bistrot. Et du coup, il y a plein d'histoires qui s'entrechoquent et à dessiner. En plus, moi, j'aime bien faire des trucs très minutieux où il y a plein de détails et tout, donc c'est un vrai kiff, quoi, voilà. Mais j'aime bien la nature aussi, mais bon, je suis quand même un gros parigo, donc je la fantasme plus que je la connais.
Oui, tu racontais que des fois, voilà, il faut alterner, il faut changer de rythme, et ouais, voilà, il faut bouger, il faut sortir de Paris quand on peut, mais...
Ah oui, bien sûr, bah, pour apprécier une ville, il faut aussi la quitter. Là, tout de suite, quand on sort de Paris, je trouve, on se dit, mais à quoi bon rester dans cette ville?
Tu disais, cher. Mais pourquoi on s'entête à rester à Paris quand tu pars de Paris?
Il y a zéro argument sensé. Mais quand on revient, je sais pas, il y a un petit truc dans l'air qui donne envie quand même
oui.
De tenter sa chance.
Voilà. Bah oui, on se sent chez soi assez vite, ouais. En fait, à Paris.
Mm. Ouais, c'est ça. Enfin, ça fait rêver, quoi.
Et est-ce que globalement, chacun, est-ce que les récents bouleversements, enfin on pense particulièrement au Covid évidemment, ont changé votre inspiration, vos envies de dessiner ou votre façon de travailler? Ou est-ce que...
Moi, sans pas doute, du hein. Tout.
Enfin, ah bon
enfin, non. Au contraire, ça m'a donné... ça m'a même conforté dans ce dans quoi j'étais, je trouve. Et même... Enfin, du coup, comme il y avait une grosse pause de temps, j'ai pu faire des trucs que je m'accordais pas forcément avant, dans le sens vraiment prendre beaucoup beaucoup de temps sur une image. Et du coup, par exemple, le premier confinement, j'ai fait 2 dessins, mais où du coup j'allais un peu tous les jours, je faisais un immeuble un jour, un autre immeuble un autre jour, enfin c'était très tranquille. Et du coup, ça m'a un peu dit, je me suis dit, si je peux avoir du temps, autant faire ça. Donc pour moi, ça n'a pas trop changé.
Non. Moi, je dirais que ça a quand même un peu bouleversé ma façon de travailler, dans le sens où c'est vrai qu'en enchaînant les projets, on a quand même moins le temps pour travailler pour soi. Et par contre, j'ai rien fait moi au confinement. J'étais incapable de dessiner, enfin sauf les projets. Mais je pense que ça, je me suis dit waouh, mais en fait, faudrait peut-être faire des petites pauses parfois de travail, de commande. Désolée. Mais en gros, c'est hyper important de prendre du recul sur son travail et ça m'a. Et je me suis dit j'ai besoin de ces moments-là où je travaille pas forcément pour des clients. Et où je peux vraiment expérimenter de mon côté. Et je trouve que quand il y a un engrenage de boulot qui est génial, hein, parce que c'est trop cool de travailler à fond, mais je pense qu'il faut aussi parfois se permettre des petits moments où on travaille pour soi et on se recentre un peu sur sa pratique, où on prend du recul tout simplement pour se dire « Ah ouais, bah, là il faudrait peut-être que je tente une autre technique ou quoi. » Voilà, donc là ouais, ça m'a fait réfléchir le fait de rester à la maison.
C'est des moments de pause un peu essentiels pour mieux respirer.
Ouais, et puis on a tellement envie de faire plein de trucs et on a vraiment jamais beaucoup de temps. Et c'était le moment où j'ai fait plein de trucs, peut-être pas forcément du dessin, mais du textile. J'ai tricoté, mais bon. C'est, non, voilà.
J'attends toujours mon bonnet d'ailleurs.
C'est en cours.
Et toi, Aline?
Alors moi j'étais en Auvergne, mais
avec
un petit enfant, il y avait ça à gérer, mais j'étais en Auvergne quand même, donc j'ai pu, le temps était complètement différent, puisque alors moi j'ai toujours beaucoup, j'ai toujours mis en, je travaille énormément pour mes projets à moi les plus personnels, mais c'est vrai que ça demande ça demande beaucoup d'énergie de gérer les deux, et c'est vrai que peut-être que là-bas pendant le confinement et là-bas a émergé l'idée de faire plus de choses qui restent dans le temps, comme des projets de livres ou des choses parce que j'adore la presse, ça m'a à un moment j'avais un dessin publié par semaine dans Le Monde et ça m'a énormément appris, mais vraiment c'était vraiment très très intéressant. Ça m'a appris à travailler vite aussi et essayer de trouver des idées vite et c'était très ludique. J'ai adoré ça, je continue à travailler pour Le Monde d'ailleurs, mais pendant le confinement, j'ai eu aussi envie de faire quelque chose de voilà qui reste plus dans le temps, et c'est vrai que quand t'es habitué à faire travailler pour la presse, donc quelque chose vraiment dans la rapidité, c'est-à-dire on t'envoie un texte, un jour plus tard, il faut envoyer un croquis, et puis etc., c'est très très soutenu, et après ça fout un peu le vertige de réfléchir à une expo qui a un temps plus long, et un livre, ça c'est carrément complètement vertigineux, c'est-à-dire que ça peut mettre un an de travail, et c'est... moi au début j'ai eu du mal à retrouver mes repères et tout, mais c'est quand j'ai commencé à réfléchir à nouveau à des projets de livres, J'ai vraiment envie de me plonger dans des projets comme ça en ce moment, en tout cas, depuis cette période.
T'inscrire dans des projets qui prennent du temps, qui vont durer.
Et puis aussi pour avoir un rapport au temps différent aussi, je pense, à titre vraiment personnel. Mmh. Ouais.
Bah, c'est un peu le point commun aussi, hein, finalement, pour les trois témoignages, là. Mmh. C'est vous laisser du temps, que vous preniez le temps de souffler déjà et puis de créer des choses de longue haleine, quoi. Ouais. De pas être toujours dans l'urgence et dans la création, même si, eh ben, c'est le deuxième pan de ce podcast, c'est le dessin de presse qui est un dessin qui a un rythme forcément rapide. Enfin, en tout cas, dans l'imaginaire collectif, le dessin de presse, déjà, il faut qu'il soit vite compris, il faut qu'il soit vite réalisé parce qu'il y a des contraintes de temps. Donc, c'est complètement aux antipodes de ce que vous venez de nous dire. Vous avez besoin de temps pour créer. Alors, justement, dans votre travail, voilà, quels sont pour chacun, je sais pas qui commence, mais comment vous créez, comment vous fabriquez un dessin de presse et qu'est-ce que vous y mettez, vous, comme intention ou comme chose personnelle? Jean? Ah.
Alors, effectivement, t'as parlé du rythme et ça, c'est vraiment le truc. C'est que, du coup, c'est un dessin qui doit être fait dans un délai vraiment donné.
En général, c'est combien, quel est le délai entre le moment où on te confie l'article, si on te confie
tout? Alors, je crois qu'il y a 2 mois, 1 mois, enfin, ça dépend quelle revue, oui, après. Zadig, c'était...
Trois jours.
Non, mais pour Zadig, je parle.
Ça dépend.
Ah oui, non, mais oui, ça dépend. Mais là, je crois que c'était à peu près 2 mois.
Oui, là, c'est le temps long, là.
Ouais, c'est le temps long, mais bon, faut quand même... Et puis, aller vite.
Et parce que tu fais autre chose aussi à côté de ça, exactement. Tu fais pas que ça.
Ouais. Du coup, le premier truc, c'est de faire des petites esquisses. Donc, je sais pas vous, mais moi, je travaille donc en tout petit dans un carnet et je tente plein d'idées. Et après, je les envoie et on discute donc avec les gens du magazine pour trouver l'idée la mieux et on fait des compromis, machin. Non, moi, je veux cet arbre à gauche. Moi, je pense que non. Du coup, ça négocie un peu. Mais voilà. En vrai, là, j'ai trouvé assez vite. Donc, moi, je peux parler du coup de mon thème.
Bah oui.
Donc c'était... le titre, c'est La province contre Paris, mais en gros, c'est un numéro sur la décentralisation, et donc sur un ensemble d'histoires de gens qui quittent la capitale pour sortir un peu de cette évidence que tout se passe à Paris. Et du coup, je voulais faire... Alors, il y a aussi, il faut savoir que pour Zadig, on fait la une, plus l'ouverture sommaire. Donc en fait, il y a 2 dessins. Et du coup, moi, je me suis dit que c'était marrant de faire quelque chose qui marche sur les 2. Et donc, en fait, ma une, elle fonctionne avec le dessin d'après, c'est-à-dire c'est un avant-après, on va dire. Donc, sur la une, on voit donc 2 personnages, en fait, qui quittent Paris. Donc, on reconnaît Paris parce que j'ai fait la Tour Eiffel. Alors, c'était la première fois que je la dessinais, c'est super dur à dessiner, sachez-le.
Bravo.
Merci. Ouais, c'est hyper dur, voilà. Et donc, l'idée, c'était de créer une ambiance un peu... pas fin du monde, mais quelque chose de très lourd, avec un jour qui tombe comme une fin de cycle, et puis un brouillard léger au-dessus de Paris comme un petit voile de pollution, et puis d'avoir 2 personnages à vélo, alors sur le même vélo, parce que du coup je trouvais que ça représentait bien l'idée d'entraide, l'idée de on fait ça ensemble, et puis s'il y en a un qui tombe, ça fout l'autre dans la merde. Et en fait, elle rentre dans un espèce de jardin qui est pas un jardin qui existe, mais plus un espèce de jardin d'Éden. Du coup, très fantasmé, comme l'idée justement de quitter Paris vers un monde meilleur. Du coup, on sait pas trop ce qu'il y a, mais il y a des grands arbres, il y a des couleurs, c'est beaucoup plus apaisant que la ville à l'extérieur qui a l'air ultra saturée. Et après, mon idée, c'était que du coup, quand on ouvre sur le sommet, en fait, on glisse de l'autre côté de l'arbre. Et du coup, c'est un autre paysage qui apparaît avec donc nos 2 personnages qui sont arrivés, qui sont posés, et du coup, qui ont visiblement trouvé leur bonheur ailleurs. Donc, j'aime bien faire ce truc-là de... Quand il y a plusieurs dessins, faire un petit truc qu'on retrouve d'un côté ou de l'autre, je me dis qu'il y a pas mal de gens qui vont pas le voir, mais pour ceux qui le voient, je trouve ça marrant qu'il y ait un petit clin d'œil. Voilà. Du coup, voilà, je crois que j'ai tout dit.
Et on retrouve quand même ton style, là, c'était de l'aquarelle, tes dessins étaient faits...
Alors, c'est un mélange. Du coup, je peux parler technique.
Bah oui.
Alors, en gros, donc moi, je travaille à l'aquarelle, aussi un peu à la gouache, aussi un peu à la tempéra. C'est un mélange des 3. Et donc, c'est sur des feuilles tendues. Et du coup, c'est plusieurs couches de couleurs, voilà, avec du coup, un peu toutes ces techniques qui se mélangent pour avoir des transparences, des couleurs vives. Et voilà.
Mais du coup, s'il y a une retouche qui t'est demandée une fois que le dessin est finalisé, c'est pas possible. Hein.
Si, c'est possible, mais c'est vrai que quand tu travailles à la main, c'est un peu plus galère. D'ailleurs, ça m'est arrivé d'avoir justement des déconvenues à cause de ça, c'est un peu un parti pris. C'est pour ça qu'il faut que l'esquisse soit vraiment... je dis pas qu'il faut qu'il y ait tout, mais il faut vraiment qu'il y ait suffisamment de choses pour pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée. Mais bon, grâce à mon meilleur ami Photoshop, en vrai, on peut toujours s'arranger. Mais ouais, c'est un peu le truc... c'est vrai que du coup, l'avantage du numérique, c'est que ben, s'il y a un truc à changer, tu le changes.
Oui.
Mais en même temps, du coup, je trouve qu'il y a plus d'adrénaline à travailler sur papier parce que ben, voilà, c'est, si un truc raté, c'est raté. Et du coup, c'est plus exaltant, on va dire.
Ouais, t'es sans filet, quoi.
Exactement. Mmh. C'est du freestyle.
Et puis, les couleurs, enfin, tu pourrais pas avoir ces dégradés et toutes ces nuances, cette épaisseur.
Ouais. Alors, ça aussi, c'est un gros problème. C'est que, alors là, merci Zadig, l'impression, elle est trop belle, mais j'ai eu plein de grosses dépressions en recevant des livres, notamment, où du coup, comme je fais des. Ouais, c'est horrible. En gros, comme je fais des couleurs, notamment certaines que je prépare avec des pigments et tout, enfin vraiment.
Et tu fais tes couleurs toi-même.
Une grosse obsession. Mmh. Et ben, il y a des couleurs qui, en fait, quand elles s'impriment, tu perds tout. Et c'est un crève-cœur, et du coup, faut un peu faire ce deuil-là. Mais aussi, faut y penser, c'est-à-dire, pour ça, moi, je demande toujours, c'est quoi le papier? Donc, si c'est un papier mat, ça veut dire un papier qui absorbe beaucoup, tu sais qu'il y a des couleurs, c'est même pas la peine d'essayer. Si c'est un papier brillant, tu te dis, ok, je vais tenter ce bleu, il y a moyen qu'il passe un peu. Donc, faut savoir aussi se restreindre un peu et dire, il y a certains bleus, c'est impossible qu'ils s'impriment, donc tant pis, bah, on les met pas. Et voilà, donc faut aussi savoir... savoir doser ça.
Parce que le vert en illustration est difficile à rendre, mais alors toi, tes verts, c'est...
Merci, merci.
Ouais,
c'est... Alors, incroyables. Bah, parce que, en fait, ils sont... je les obtiens en mélangeant aussi avec du bleu, du jaune, enfin bref, c'est des...
Ah oui.
Ouais. Mais voilà, du coup, je crois que j'ai tout dit. J'ai parlé.
Et pour le coup, parce que c'est aussi une question du dessin de presse, pour toi, la contrainte de l'article à illustrer te fait faire des choses qui sont quand même très artistiques. Tu ne peux pas renier un dessin que tu as fait pour, en tout cas pour ce Zadig et pour la presse en général.
Franchement, ça c'est un truc que j'aime bien. Ça respecte ton travail. Quand je fais quelque chose, je le fais vraiment. J'essaie de ne pas dénigrer parce que c'est une commande. Alors ça, c'est le plus dur. Enfin, je pense que vous êtes d'accord que quand tu as une commande, vu que ce n'est pas une idée qui te vient de toi, tu vas peut-être pas y mettre toute la passion que t'aurais mis dans un dessin qui est vraiment cathartique.
Si tu mets toute sa passion.
Oui, bah du coup c'est ça. Mais du coup c'est un peu plus dur, je trouve, de trouver le. Il faut trouver en fait.
Il faut trouver l'endroit où tu peux mettre ta passion.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Mmh. Et du coup c'est pas parce que c'est une commande qu'il faut faire quelque chose de moins personnel en fait, je pense.
Mmh. Aline,
je suis complètement d'accord avec lui. Et moi j'ai envie que chaque dessin que je fais idéalement soit le plus personnel possible et l'idée c'est de jamais rien de jamais rien renier
pas de compromission
d'être fière de tout, au maximum
que ça te plaise max
parce que quand on regarde les couvres ou les dessins que vous avez faits là qui sont exposés ils pourraient être sortis de leur contexte, ils parlent aussi tout seuls en fait, ils sont très beaux en tant que tels,
c'est le but.
Exactement, c'est ce qu'il faut se dire. C'est exactement ça, pas d'autant que c'est des dessins qui sont très visibles du coup. Donc, autant pas se rater, quoi. Après, ça met de la pression aussi, donc faut pas trop se dire ça, donc faut être détendu.
Toi-même, tu pousses même, le curseur jusqu'à dire que des fois, l'illustration de commande t'inspire pour ensuite tes travaux personnels. Ça peut te donner des idées, en tout cas.
Ah oui, complètement. Je donnais l'exemple du monde parce que c'est un rythme très, très soutenu. Ça m'a appris à travailler le métier pur, mais ça m'a aussi... amener des idées de textures, de couleurs, de plein de choses. Et puis aussi, plus on travaille, plus on sait des choses, plus on a confiance en soi, plus... c'est ça aussi, il n'y a pas forcément des choses qu'on peut vraiment décrire, mais c'est le mouvement, c'est comme un... C'est de rester en mouvement et d'apprendre de soi et de tout ça, j'aurais du mal à le dire.
C'est comme un muscle aussi, plus tu dessines,
je sais pas dire ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de un peu comme ça.
Il y a un autre truc aussi, c'est, je trouve, des fois les commandes, ça va te faire dessiner des choses que tu aurais jamais dessinées. Genre là, la Tour Eiffel, mais genre des fois une passoire, et du coup tu progresses de ouf en dessin, je trouve, en commande, parce que ça te sort aussi de... t'es obligé de faire des fois des trucs que t'as jamais dessinés, et du coup tu te un peu plus.
Oui,
c'était quel bonnet déjà?
Bonnet frigien.
Voilà, le bonnet frigien. remarquable.
Et j'avais su.
Et Béga, t'avais fait, toi, la couverture numéro 5.
Ouais, il y a très longtemps, finalement, quand on y pense.
Oui. Et tu peux nous dire le sujet de cette couve qui est exposée là?
C'était sur les mers de France.
Les mers qui changent la France.
Les mers qui changent la France, voilà. Donc il faut, fallait trouver un peu une...
Oui, c'est dur, ça.
Personnification de la France. Et on avait trouvé ça avec la directrice artistique du bonnet phrygien qui représente la Marianne.
Mer, M-A-I.
Les oui, mères, tout à fait, M-A-I-R-E-S. Tout à fait.
Oui, donc c'est...
Si on va chercher la...
Oui, oui. Mais on peut, on pourrait, parce que c'est un personnage féminin que tu as représenté, finalement.
Oui, 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 tout à fait.
Et le parti pris qu'il y a, justement, dans ce genre de dessin, parce que il n'est pas complètement adossé à l'article. Et c'est, tu as fait un pas de côté pour faire un dessin qui ne soit pas le sous-titre même de l'article, mais qui est une...
Oui, c'est vrai que j'essaye de vraiment apporter quelque chose en plus du texte. Je pense que c'est tout là l'intérêt de l'illustration, c'est vraiment de ne pas paraphraser ce qui est dit dans le texte et d'apporter un regard en plus, apporter une imagination en plus, et du coup voilà, c'est ce que j'avais essayé de faire. Après c'était quand même il y a assez longtemps, je pense qu'aujourd'hui je ferais pas la même chose, mais voilà, ouais, j'avais...
Mais tu ferais quoi de différent?
J'ai l'impression d'avoir évolué, même dans la façon de représenter les végétaux, les personnages et tout. Enfin, je ferais quelque chose de peut-être plus foisonnant, mais en même temps j'aime bien, c'est assez calme finalement. Se lance des fleurs. Non, en fait, mais j'aime bien.
Parce que le c'est peut-être dans l'ensemble des couves qui sont présentées ou des travaux d'illustration de Zadig, celle qui est la plus au niveau signification opaque. Peut-être,
parce bizarre.
Que non, enfin, en tout cas moins immédiate au niveau lecture que les autres, parce que sur ce sujet, les mères qui changent la France, t'as représenté une jeune fille assise sur une chaise. Ouais. Évidemment, pour ceux qui écoutent, ils le voient pas, mais bon, il faut justement consulter les Zadig. Ouais. Et donc, qui est de dos avec un bonnet phrygien et isolée sur une île face à un immeuble.
Ouais, tout à
et
fait.
La symbolique.
Bah justement, c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé avec la directrice artistique. À la base, c'était pas mon idée. Première, mais c'est vrai que avec plusieurs crayonnés, on est parvenu à cette illustration là. C'est vrai qu'au départ, je pense que j'avais fait quelque chose d'un tout petit peu plus littéral, et à l'époque, elle m'avait dit que ce serait bien de s'éloigner un peu de ce texte.
Ah, donc là, c'était le parti pris de s'éloigner du texte.
Voilà. Donc là, c'était vraiment le but de pas représenter directement. Des mères avec leur écharpe.
Et qui sont isolées un peu, enfin, peut-être aussi d'après l'article, enfin le dessin.
Donc, ouais, non,
Et est-ce que vous-même, en tant qu'artiste, vous avez des engagements que vous signifiez dans vos dessins? Ça peut être écologique, ou bien politique, ou féministe. Est-ce que vous mettez un peu d'engagement personnel, ou caché, ou plus ou moins évident? Est-ce que vous l'avez fait déjà, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire? Enfin, parler d'art engagé, du coup. Ou ça peut ne pas vous parler du tout, et peut-être que vous préférez vraiment faire une scission entre vos engagements personnels et votre art. Hein. C'est un parti pris. Hein,
ouais, merci, allez, c'est la question la plus facile. Non, je vais pas me casser la gueule. je pense que ça se voit quand même, soit une démarche consciente ou inconsciente, je pense que les choses se voient. Et je pense que les... Oui, effectivement, c'est casse-gueule.
Et voilà.
Disons que... Voilà. Et voilà. Toi, t'en penses quoi, donc?
Alors,
et toi, Jean?
Et moi,
Tu dessines des ours, est-ce que c'est pour militer pour les animaux?
Ouais.
Oui, oui. Non, libérer mais des les fois, ours. Alors,
ça m'est...
Non, mais des fois, je trouve ça marrant qu'elle ait des tout petits détails... Enfin, c'est un peu ridicule, mais comme des tags qu'on ferait dans ses propres dessins. Des fois, des petits messages politiques, genre un petit drapeau, quelque chose, je sais pas. Encore une fois, que personne ne verra, mais...
Un clin d'œil.
Mais il est là, et ouais. Ouais, sinon, dans la représentation, quand même, hein, ça, c'est un vrai truc, c'est qu'est-ce que... Moi, par exemple, enfin, c'est... Je sais pas si c'est politique, mais j'aime bien que mes personnages, par exemple, soient pas trop stéréotypés, on va dire, par exemple, mec ou meuf, de faire des personnages un peu androgynes. C'est un truc qui me plaît dans le sens où, du coup, je me dis comme ça, les gens qui se projettent comme ils veulent dans mes dessins, et c'est pas quelque chose de très cadré là-dessus. Je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, c'est un truc, j'essaie de toujours me dire ça, de voilà, bah, c'est comme ça le gros truc, c'est la représentation.
Oui, tes dessins sont pas incarnés, enfin, les dessins d'humains que tu fais sont pas incarnés.
Voilà, voilà, c'est ça, j'essaie
de... C'est marrant parce que moi, je crois qu'ils sont super incarnés, quoi, mes personnages.
Bah ouais, mais c'est aussi politique, du coup, enfin, tu vois, c'est...
Ouais, ouais. Mais c'est intéressant.
Enfin, ouais. Ouais.
Moi, j'essaye au maximum. Enfin, en fait, quand j'étais petite, il n'y avait pas forcément de représentation de livres pour enfants, par exemple, où les personnages étaient autres que blanc-blanc. Mm. Et du coup, je pense que c'est quelque chose que je fais assez naturellement, sans forcément m'en rendre compte. Mais c'est vrai que mes personnages, souvent, ils ont une couleur de peau un peu bronzée, on va dire. Donc, c'est peut-être aussi le fait que moi, je me vois aussi dans mes personnages. C'est pas très égocentrique, mais dans le sens où, voilà, là, j'essaye d'avoir des couleurs de peau un peu représentatives du plus de personnes possible.
Je pense qu'on y pense tous, ça. C'est...
On y pense tous, et je pense que c'est important aussi de travailler pour ça, même si c'est pas forcément explicite. Moi, c'est pas quelque chose que je revendique haut et fort sur les réseaux, notamment, mais c'est quelque chose que je fais assez naturellement, et je pense que c'est assez important. En tout cas, pour moi, c'est important de penser à ça quand je dessine des personnages, quoi.
Ouais.
Pas forcément pour enfants, d'ailleurs, hein, que ce soit pour la presse et tout, d'avoir cette pluralité de représentation.
Oui, c'est important dans vos créations personnelles de représenter le maximum, enfin que la population la plus vaste possible, sociale, culturelle.
Oui, pour le coup, surtout pour le travail de commande.
Oui.
Pour le coup.
Ça vous est souvent demandé.
Jamais demandé.
Ah, c'est pas demandé,
c'est nous,
d'accord.
Je pense qu'on pense à peu près tous la même chose. C'est nous qui pensons naturellement de mettre, en tout cas moi je pense à mettre les femmes en avant souvent et penser à une forme de diversité
je pense qu'il y a un côté aussi c'est pas notre entre-soi d'illustrateur parisien, mais je pense pas que un illustrateur qui est paumé dans la nature, est-ce que tout le monde irait vers ça, est-ce que c'est pas un peu j'ai pas envie de dire que c'est une mode. Ok, là, c'est casse-gueule, vraiment. mais en gros, ouais, j'ai l'impression que... Enfin, moi, on m'a déjà demandé de mettre littéralement une peau la plus noire possible pour un personnage ou... Non, au contraire, pas du tout. Enfin, je trouve ça... en fait, faut que ça soit un peu... Que ça vienne de nous et que ça soit pas forcément obligatoire ou... Enfin, c'est assez délicat, quand même, comme sujet.
Okay, et puis parfois on a des sujets politiques sociétaux plutôt à illustrer. Enfin, je me souviens d'un sujet sur l'inceste que j'ai dû faire pour Society, je crois. Enfin, il faut réfléchir, quoi. C'est pas c'est pas anodin, quoi. Il y a des sujets qui sont
pas anodins.
Ouais, où faut juste réfléchir à être le plus le moins pertinent, je sais pas si c'est pertinent le terme, en tout cas faut réfléchir, faut pas faire de rien n'est anodin quand on travaille sur des sujets comme ça.
Ah oui, l'illustration, oui, c'est sûr. Après, l'avantage c'est que vous pouvez y mettre autant de messages, enfin autant de nuances que vous le souhaitez, mais ça nécessite un travail en amont de réflexion.
J'adore avoir ce genre de sujet,
parce que
ça t'oblige toi à réfléchir et ça te fait évoluer aussi. Moi j'ai lu plein d'articles pour en illustration qui m'ont vraiment, ou des livres, parce que je fais énormément de couvertures de livres, qui m'ont aussi énormément nourri ailleurs que juste est-ce que ça exerce mon dessin ou je me demande si c'était pas pour Zadig que j'ai fait un truc qui m'avait marqué. Non, mais oui, il y a plein de...
Parce que le travail de réflexion en amont, des fois, doit être très long. Même après, une fois que vous avez trouvé l'idée, mais pour la trouver, c'est peut-être le temps le plus long.
On n'a pas le temps, tellement.
Enfin, il faut pour le monde, j'imagine, si tu publies toutes les semaines...
Oui, mais même pour des journaux autres, en fait, c'est rare que dans la presse, on ait vraiment le temps de la réflexion, etc. À limite, ça dit que c'est là où on a le plus de temps, parce que c'est plus une revue. Mais quand c'est le monde, quand c'est la presse, c'est beaucoup plus soutenu. Ça pousse à réfléchir. Il faut réfléchir vite et bien.
Ouais, ça doit être épuisant.
Moi je trouve ça assez fatigant, ouais. Mais, mais en même temps, c'est excitant. Moi j'aime beaucoup cette adrénaline aussi.
Parce qu'une fois que nous, en tant que lecteur, on voit le dessin, l'illustration presse de réaliser, ça paraît presque une évidence. C'est beau, c'est signifiant, enfin tout est cohérent. Mais vous, en amont, c'est quand même c'est une épreuve à chaque fois. Et puis c'est un défi. C'est un défi à relever. Je pense que tout le monde ne peut pas être illustrateur presse non plus. Ça, c'est une vraie question parce que.
Moi, j'ai des amis qui veulent, qui sont dessinateurs aussi, qui font beaucoup de livres et qui, après, je pense que c'est pas fait pour. Enfin, oui, ça demande une certaine forme de.
D'agilité aussi,
De disponibilité, faut se faire confiance. Mais ça, c'est un truc qui aussi s'apprend. Mais, plus on fait de choses, plus on a confiance, quelque part. Mais c'est une forme d'excitation. Soit tu détestes, soit c'est génial. Et voilà.
Parce que c'est une remise en question aussi, un dessin, à chaque fois, de dire quand quelqu'un. Zadig vient vous voir en disant voilà, vous faites la couve. L'enjeu que c'est de faire une couve pour Zadig, est-ce que justement vous allez.
C'est une super bonne nouvelle. Hein, comme...
oui, mais enfin, c'est sûr. Mais il y a un challenge et j'imagine, comme tu dis, il ne faut pas se rater et ça met un enjeu supplémentaire. Parce
c'est là que tu peux te rater du coup. C'est que tu as envie de trop bien faire et du coup, tu vas faire une image trop bien et qui va perdre ce dont tu parlais, c'est-à-dire la justesse par rapport à un sujet. Et donc c'est ça, faut arriver à.
Il faut pas le trop travailler non plus alors.
C'est pas trop bien travailler, mais le but c'est pas de faire quelque chose de bien. Il faut que ce soit vraiment juste en fait. C'est la nuance à bien saisir, je pense.
Après ça reste une ça reste une œuvre d'art. Donc si tu réfléchis trop, le charme, il y a plus de charme. Tu perds.
Faut pas trop intellectualiser.
Donc c'est hyper dur de pas trop réfléchir et de se laisser l'instinct arriver.
Ouais.
Et si tu réfléchis trop, je crois que c'est de ça que tu parles. Ça fait un peu. Tu sens quand tu sens pas le dessin. Quand tu dessines, et t'as deux jours pour le faire. Enfin, moi, en général, j'ai deux jours pour le faire. Et donc, t'as pas vraiment le temps de te retourner. Enfin, tu peux pas le refaire. Et en plus, parfois, tu veux. Enfin, je sais pas, vous avez tous vécu ça, de faire un dessin, et puis vous le sentez pas, et c'est laborieux, c'est horrible, tu sais pas si tu t'arrêtes, tu recommences, si tu t'obstines, enfin, c'est des moments, mais quand ça marche, c'est vraiment,
c'est le
meilleur sentiment. Ouais.
Tu peux avoir le déclic à...
Quand tu prends du plaisir.
Ouais, c'est ça.
En fait, ça change tout de prendre du plaisir quand tu dessines.
Et parfois, ça arrive, c'est laborieux, et paf, ça arrive.
Tu sens que c'est juste.
Tu ressens le truc à nouveau, et ça, c'est vraiment, on parle de dessin toujours.
T'as trouvé la résolution de l'équation, quoi.
Comment?
T'as presque trouvé la résolution. Oui, je t'ai coupé.
Oui, je voulais juste dire, j'ai oublié. Non, quand tu parlais de trouver l'idée, enfin, moi, je sais pas vous, mais je crois que c'est le moment que je préfère. C'est la phase croquis. Enfin, parce que le dessin, c'est trop bien, mais je veux dire, on en fait tout le temps, mais la phase croquis où vraiment tu réfléchis à l'idée pour le sujet, du coup, ça va. C'est des dessins qui vont super vite.
Quand tu trouves l'idée.
Ouais, quand tu trouves l'idée. Enfin, quand tu la cherches.
Quand
tu recherches l'idée, quoi. Enfin,
phase, c'est nouveau, t'es excité, c'est un nouveau projet.
Ouais, moi j'aime
et tout,
ça. Du coup, c'est là que tout est encore possible. Et du coup, je sais pas. Après, le dessin, quand tu fais un choix, bah, du coup, t'élimines toutes les autres possibilités.
Choisir, donc, c'est renoncer, genre.
Exactement, bah voilà. Bah voilà, c'est j'ai rien à ajouter du coup.
C'est oui, dans l'achèvement d'un dessin, il y a aussi le fait de le mettre à mort, en fait, c'est terminé.
Ouais. Alors ça, du coup, je sais pas vous, on peut en parler, vu que c'est un peu une séance de psy pour le dessin, mais moi j'ai un gros problème avec dire ce dessin est terminé. Ça, c'est vraiment un problème quotidien.
C'est classique.
Ah ouais, c'est genre, je sais pas m'arrêter, en fait.
Ah ouais. Je pense que c'est ta technique aussi qui fait que... Comme tu peux en rajouter...
Ouais, c'est ça, tu peux en rajouter, et du coup...
Des couches et des couches.
Je crois que je suis toujours un tout petit peu, tu sais, le petit truc de trop où t'aurais dû t'arrêter avant, et ça c'est
pas
vraiment,
dû mettre cette feuille,
putain de feuille, ouais, mais après je la vois, je vois que ça, je vois cette feuille et elle a tout gâché. Ouais, du coup je sais pas vous, mais moi c'est vraiment un truc, je sais pas à quel moment je dis là ça y est, c'est bon.
Non, par contre, tu parlais du croquis. Moi, ce que je trouve génial, c'est quand on t'envoie un article, t'as pas d'idée, tu dis mais il y a rien qui se passe. Tu avances dans ta journée et le truc arrive sans que tu n'y penses plus.
C'est
ça le meilleur moment.
Ce moment, il est très très bien.
Alors que tu pensais que c'est n'allait jamais rien se passer dans.
Et on peut aussi parler des idées nulles qu'on a, parce que ça c'est marrant, moi je les garde, les idées nulles.
Attends, une idée nulle, tu peux faire un bon dessin avec une idée nulle. Ça, enfin moi.
Oui, c'est vrai. Mais si vous saviez, Zadig, ce à quoi vous avez échappé. Moi, je vous dirais pas, mais.
Ça dépend vraiment du style de dessin. C'est-à-dire que quand t'as un dessin très épuré, si l'idée est pas bonne, bon bah. C'est compliqué.
C'est compliqué.
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont un dessin très avec des traits simples, parce que c'est ils sont nus, quoi. Et
Ah, c'est des fois la simplicité, c'est un travail de très long en amont aussi pour y arriver.
Ouais. Il y a des fausses simplicités, par exemple, parler de la couverture de Guy Billot tout à l'heure. Et c'est un dessin qui a un aspect simple, en tout cas, voilà, qui n'est pas trop m'attiré,
je crois.
Ouais. Et je parle de lui parce que
j'en ai l'impression. D'accord.
Et ouais, et donc c'est un dessin qui a l'air simple, en même temps il n'est pas du tout, l'exécution de ce dessin n'est pas du tout simple, et l'idée, tout repose sur l'idée. Et en même temps, ça, le fait que l'idée soit tellement forte dans le dessin cache le fait que même la réalisation du dessin est complexe. Mais la personne qui voit le dessin, je pense qu'elle a l'impression que c'est simple. Enfin, ça c'est vraiment très dur à faire. En tout cas,
on se pose pas de questions. Pareil. Oui.
C'est ça demande. Enfin, c'est. Je trouve ça vraiment. Il y a quelque chose de. Enfin, j'aime beaucoup son univers surréaliste et voilà, j'avais envie de parler de. Voilà.
Et est-ce que vous avez, pour finir, vous avez tous fait la couve de Zadig sur ces précédents numéros. Il y a une fierté quand même quand vous voyez en kiosque, en ce moment, genre, on te voit partout. Comment
c'est
comme si t'étais à l'arrière d'un bus, quoi. Enfin,
ouais, c'est très agréable. Je sais pas comment je vais faire quand ils vont
y retirer. Ça vous nourrit.
Ouais, déjà, alors, parlons-en, pendant les élections, il y avait plus ma une. Il y avait la tête, donc, des deux candidats. J'étais très, très mal. Mais Dieu soit loué, elle est revenue. Oui, tout à fait. Elle est revenue et j'espère qu'elle restera toujours. Parce que ça, chaque matin, ça m'aide à aller.
C'est trop bien.
Ouais.
C'est trop cool. C'est vrai.
On s'habitue, tu vois, à se voir partout. Un petit délire monomaniaque, je pense. Tous les matins. Eh oui, c'est moi qui ai fait ce dessin. Et les gens savent pas dans la rue.
Oui, c'est vrai, t'as envie de leur dire
des fois,
c'est
moi.
Des
fois, je leur dis, tu vois.
Toi aussi, Aline, c'est... Oui, c'est satisfaisant.
Oui, moi, plus on parle de moi, plus il y a mes dessins partout.
Oui,
il n'y a
pas de mal à ça.
J'adore.
Hein.
Non, blague à part. Non, mais c'est super. Et toi, t'as quel âge, 23 ans?
24.
24.
24,
hein.
Bref. Ouais. je me souviens des premiers sentiments que j'ai eus quand on voyait mon travail. C'est fou. Même la première fois qu'on voit son nom dans un journal.
Ouais,
c'est complètement fou, quoi. On a envie effectivement de le dire, de montrer à tout le monde, à des inconnus dans la rue. C'est un truc. Donc parfois même juste son. Je me souviens la première fois que j'ai vu mon nom, quoi, dans un journal, c'était magique. Donc c'est tu passes de l'autre côté du miroir, quoi. Je sais pas comment dire. Tu passes de l'atelier.
On n'est plus loin après ça.
À la fame.
Tu démocratises.
Oui, c'est ouvert au public, en fait. T'es offerte au public.
Mais c'est ça que j'aime aussi dans l'illustration, c'est que c'est l'art démocratisé. C'est-à-dire que tout le monde peut voir les choses.
Ouais.
C'est
accessible.
Faut pas prendre son courage à deux mains pour entrer dans une galerie. Faut pas savoir plus un truc que quelqu'un d'autre. C'est partout. C'est pour tout le monde. C'est ça qui est vraiment cool.
C'est populaire.
Oui.
Ouais,
Oui, c'est ça. Alors.
Vive l'illustration.
Voilà.
Et vive la France.
Et vive Zadig.
Très bas, président.
Je passe la parole à François V, rédacteur en chef de Zadig. Attendez, je vous...
Donc, c'est pas moi qui vous... Il y a une directrice artistique qui s'appelle Nathalie Thérièse Fotorino qui a discuté avec vous, qui a choisi ces jeunes artistes. C'est un grand plaisir de les entendre, de les voir, parce que moi, je suis pas en contact avec eux. Donc, simplement, on décide d'un sujet, puis on fait appel à eux. Alors, c'est vrai qu'en voyant comme ça la revue ici, et puis en vous écoutant, en fait, je m'étais jamais dit que vous étiez, en fait, le visage, la personnalité de la revue, parce qu'en fait, la première chose qu'on voit, c'est l'image que vous avez produite. Donc, en fait, c'est l'identité de cette revue dont vous vous êtes emparé, que vous avez décliné. C'est une revue, pour ceux qui connaissent pas du tout, qui a que 3 ans, qui est complètement indépendante, qui a été créée par Eric Fotorino, et j'ai travaillé avec lui pendant 1 an pour définir ce que serait cette revue qui est consacrée à la France. Et l'idée, c'est de la rendre à la fois lisible et puis aussi sensible. Et une grande partie du travail est réalisée par justement des dessinateurs, des illustrateurs. Puis il y a aussi des photographes, puis il y a aussi des journalistes, et puis il y a aussi des intellectuels, et puis il y a aussi des écrivains. Et c'est tout ça, le cocktail qu'on a voulu réunir, tous ces ingrédients mélangés, c'est une très très belle aventure éditoriale parce que c'est un pari qui est quand même un petit peu insensé. Et quand je vois ça, je me dis qu'on a fait déjà 12 numéros, 13, et c'est une grande satisfaction pour toute l'équipe, pour tous les gens qui concourent. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre présence.
Et Et il y a le numéro 13 de Zadi qui est disponible pour ceux qui sont intéressés, qui est là. Bon, bah, merci beaucoup. Ça clôt la séance, l'émission, le podcast. Est-ce que, je sais pas, il y a des personnes qui voudraient poser des questions? Ou est-ce qu'on passe à l'apéro? Non? Bon, alors, apéro! Merci beaucoup, merci à tous!